Bienvenue à la conférence téléphonique de présentation des résultats du troisième trimestre 2016 de Livy. Je laisse à présent la parole à Emmanuel Vielard. Monsieur, c'est à vous.
Merci, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Je vais commencer, comme habitude, de vous donner un commentaire assez général sur ce trimestre, donc qui a vu un chiffre d'affaires de 380 millions. Qui se compare avec un chiffre d'affaires l'an dernier de 339 et il y a 2 ans de 306 millions, donc en forte progression. Ça nous fait une progression de 12%, avec bien entendu l'intégration et les effets de l'ISI Médical Remely. À périmètre constant, on est à plus 6,9%. Donc là aussi, en termes organiques, c'est la plus forte croissance qu'on ait connue depuis le début de l'année. Alors, par division, maintenant, on peut... Notez que l'aéronautique est toujours dynamique, avec une poursuite de la croissance organique soutenue par un marché européen, lancement par Airbus de la 350, qui conduit pour nous, pour l'activité Fasteners Europe, à un très bon niveau d'activité. On a également les effets de ces nouveaux programmes sur le segment structural, où là on fournit, je vous rappelle, des composants très importants pour le moteur LEAP ainsi que pour la 350. Donc là aussi, on est dans une forte montée en cadence sur ces nouveaux programmes. Du côté des États-Unis, on note toujours un tassement des commandes de Boeing malgré un léger rebond sur les mois d'août et septembre par rapport à la moyenne depuis le début de l'année. On ne peut pas dire qu'on ait retrouvé un niveau normatif d'activité avec Boeing et on attend la confirmation sur le T4. Enfin, les perspectives de marché, malgré les marchés annexes hein, qui sont quand même en difficulté, comme les hélicoptères ou les business jets, donc les perspectives de marché sur les avions commerciaux restent toujours solides. Vous avez vu les dernières publications d'Airbus, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Quand on regarde l'activité automobile maintenant, on est en croissance organique retrouvée, puisque je vous rappelle qu'on avait démarré l'année avec une activité en léger retrait. Donc c'est la croissance organique dans un marché européen qui nous permet d'être très dynamique, ainsi que le développement du portefeuille de nos produits de visserie, d'applications et surtout de composants de sécurité qui est dynamique sur la période. On peut noter également que le segment des fixations clippées est aussi assez dynamique avec des prix de nouveaux produits et de parts de marché significatives. En global, on a un niveau d'activité une prise de part de marché sur les nouveaux produits qui est supérieure à 10%, ce qui est un bon niveau pour nous. Avec 110 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le trimestre, c'est également là un record hein, sur le T3. Par comparaison, l'an dernier on était à 105 millions et l'année d'avant nous étions à 107 millions. Du côté de l'ISI Médical, on bénéficie cette fois d'un trimestre plein de Remely qui contribue pour 16,8 millions d'euros sur le trimestre. En global, on a 27,5 millions apportés depuis le 1er mai, intégration de l'ISI Médical dans le groupe. En global, ça nous fait 27,5 millions de chiffre d'affaires apportés par LMR qui satisfait. On peut noter sur le marché une bonne dynamique de prise de nouveaux produits et de développement, et notamment chez LMR, donc Remely, avec, il faut noter, 15 millions de dollars par an, hein, d'équivalent lorsque les nouveaux produits seront en phase industrielle, qui ont été pris et confirmés auprès de LMR. Du coup, une de nos premières décisions a été d'autoriser l'extension de l'usine située à Minneapolis. Donc, on a une intégration qui se passe tout à fait... conformément à nos attentes concernant LMR. Alors, quand on regarde maintenant les perspectives et ce qui vous intéresse le plus, et qu'on reprend division par division, dans l'aéronautique, on est toujours dans une accélération de la montée en cadence des nouveaux programmes, qui va nous occuper encore d'une façon très dynamique, notamment sur la partie structurelle. On peut penser que sur la partie A350, on a une certaine accalmie d'ici la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Par contre, on attend toujours le redressement du marché américain, qui devrait venir comme un relais de croissance. Nos efforts en termes opérationnels sont concentrés sur le pôle composant de structure. Alors, vous avez vu dans notre rapport d'activité, on a essayé d'employer les mots qui convenaient. Mais pour vous expliquer les choses, c'est qu'on essaye au maximum d'avoir les effets volume en bas de page et en bas du compte de résultat. Pour l'instant, comme nous sommes toujours dans une phase de montée en puissance et d'accélération, on n'a pas ces effets de volume, puisqu'on est en permanence en train d'embaucher, de rentrer de nouveaux équipements, de régler les machines, et donc d'avoir des coûts de développement significatifs sur sur ce pôle-là. Donc, on va régler progressivement les sujets et on sera aidé lorsqu'on atteindra un certain plateau, ce qui devrait être le cas en courant de 2017. Ce qu'il faut noter également, c'est que les perspectives commerciales globalement du secteur aéronautique restent solides. Et donc, on attend un dernier trimestre tout à fait dynamique dans la lignée du T3, ainsi qu'un exercice 2017 où on devrait avoir, j'espère, les résultats de nos plans d'action. Sur l'auto, eh bien, on confirme le redressement globalement, avec tout d'abord la poursuite des plans d'action d'amélioration des performances des sites français sur la partie fixation vissée qui nous a pas mal occupés et qui aujourd'hui nous donne satisfaction. On a des perspectives de développement avec des nouveaux produits qui sont en cours de discussion ou déjà en prise de commande, qui seront industrialisés. Et là, on a bien solidifié, bien consolidé notre organisation pour pouvoir mettre en route ces nouveaux produits dans de bonnes conditions. Et on attend également un bon niveau d'activité dans la partie fixation clippée, où là, on a pu avoir de nombreux prototypes qui devraient monter en production sur la fin de l'exercice et le début de l'exercice suivant. L'auto doit franchir encore un cap en termes de rentabilité et confirmer la progression du résultat pour atteindre les 7% de résultats normés. Et on est sur la feuille de route aujourd'hui, après ce troisième trimestre. Du côté du médical, donc on a des perspectives commerciales que je vais vous expliquer. On a une intégration de Remlé qui se passe au mieux et on se doit également d'industrialiser des nouveaux produits notamment on peut citer le site de Caen, l'ICI médical orthopédique, et sur l'ICI médical Remlé. Donc du côté du médical, en complément de la croissance externe que nous avons faite cette année, on doit trouver maintenant, et nos attentes se tournent vers la croissance organique et l'intégration solide de LMR dans le dispositif. Donc, en global, on ne peut que confirmer les objectifs précédemment publiés pour l'exercice en cours, qui sont, je vous le rappelle, la progression des résultats en valeur absolue, ainsi qu'un free cash flow positif. Voilà pour la synthèse de l'activité. Maintenant, je vais laisser un peu de place pour vos questions.
Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, tapez 01 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une question de M. Antoine Boivin de Natixi. Monsieur.
Oui. Le son n'est pas très élevé, vous pouvez m'entendre ?
Oui, très bien, oui.
D'accord. Bonsoir Emmanuel et les gens qui sont avec vous. J'avais deux questions essentiellement. La première sur le Rafale qui doit être normalement à cadence 2, est-ce que ce rythme par rapport à 2015 fait un delta significatif au niveau de votre croissance. Et quand est-ce que vous pensez aller à cadence 3 sur celui-là, peut-être en avance de phase sur d'éventuels contrats de Dassault. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est suite au problème d'Alcoa, sur le concurrent du LIP, qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça peut avoir des impacts en termes industriels ou d'ingénierie sur la supply chain au global et sur vous en particulier, même si vous n'êtes pas sur le GTF, est-ce qu'il peut y avoir des sujets de ce point de vue-là ? Merci.
Très bien. Merci Antoine. Donc tout d'abord sur le Rafale, aujourd'hui on note pas d'augmentation des besoins particuliers sur ce programme encore. Et on saura réagir lorsque les cadences seront en hausse, parce que pour l'instant à ma connaissance on est toujours sur des cadences identiques. Comme je vous l'avais déjà expliqué, on a eu des demandes particulières sur le M88 qui était notamment... Donc le M88, qui est le moteur du Rafale, hein, qui était notamment lié aux grosses maintenances qui étaient en cours avec des avions qui volent énormément. Donc là, on a mis en place une cellule particulière à Parthenay pour pouvoir sortir en réparation et augmenter nos cadences sur le M88. Donc on a un plan M88 qui est particulier. Concernant les bords d'attaque, donc pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant, donc Alcoa produit les bords d'attaque du GTF. Donc du PW1100 qui motorise une partie du 320 Neo. Donc j'ai pas l'habitude de m'étendre sur les problèmes des concurrents, mais en ce qui nous concerne pour l'instant sur les BA libres qui sont d'une totale autre technologie que les BA du GTF, parce que je vous rappelle que les autres fans du GTF sont des autres fans métalliques. Aluminium, lithium notamment, et alors que le LIP a des opfans qui sont en composite. Et en composite, ça nécessite des bords d'attaque beaucoup plus techniques et beaucoup plus sensibles. Alors, nous travaillons en très très étroite collaboration avec SNECMA pour pouvoir faire face aux cadences, que pour l'instant, nous tenons le rythme de cadence qui a été convenu avec SNECMA. Et ça suppose derrière qu'on emploie des ressources très significatives. Vous connaissez notre politique, on préfère générer des niveaux de coûts significatifs, mais en tout cas pas mettre en panne et pas mettre en péril la continuité des programmes. Donc ça a été notre première priorité. Pour l'instant, nous tenons cette priorité, quel qu'en soit le coût.
Merci. Et en fait, derrière ma question, il y avait le fait que vous êtes concurrent d'Alcoa sur la partie fasteners. Est-ce que le fait qu'ils aient des problèmes sur d'autres activités, comme celle-là, comme les aubes, fait que les clients, en faisant une assimilation un peu rapide, peuvent se dire qu'ils pourraient vous donner plus de business sur la partie fasteners?
Non, c'est pas aussi direct que ça.
Le sujet n'est pas différent.
Ça peut peser dans les discussions futures.
D'accord. Merci.
Je vous en prie. Une autre question ?
Nous avons une autre question de Madame Agnès Blasi de CMCIC Market Solutions. Madame, c'est à vous.
Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde. J'ai deux questions relativement à la présentation que vous avez faite. La première, c'est sur la 350. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, redire tout ce que vous faites, et vous avez parlé du fait qu'on était en rythme de croisière à présent, alors que moi j'avais idée que ça allait monter encore plus l'an prochain. Et la deuxième question, vous avez évoqué une marge de 7% en normatif sur la partie auto, et en fait je ne l'avais pas entendu précédemment, il fallait que je t'ai parlé au semestriel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Très bien, on va repréciser ces deux sujets-là, Agnès. Donc tout d'abord sur le 350, sur la partie fixation. Donc on a des vagues d'appels qui interviennent en avance de phase, c'est pour ça que je dis qu'on devrait se stabiliser, puisque je vous rappelle que dans ce domaine-là, on est quasiment un an en avance de phase. Donc quand vous regardez la courbe de montée en puissance de la 350, et compte tenu de nos livraisons aujourd'hui qui sont effectuées, enfin la prise de commande que Airbus a placée auprès de nous, on devrait atteindre une certaine maturité dans le volume à 350 livrés. Ça, c'est pour la partie Fasteners Europe. Donc, on devrait atteindre cette maturité dans le courant de 2017. Je positionne ça prudemment sur début 2017. Voilà, pour dire qu'il y aura un certain palier atteint avec la fourniture de fixation. Par contre, tout ce qui concerne les fixations de pièces primaires dans la partie structurelle qui concerne la 350, là on est beaucoup plus proche de la ligne d'assemblage et beaucoup plus proche des cadences réelles. Et c'est là où effectivement vous avez raison de dire que l'augmentation des cadences sera encore très sensible sur le courant de l'exercice 2017. Concernant le niveau de marge, alors effectivement, Agnès, vous avez dû rater une présentation où on avait récapitulé la feuille de route de montée ou de restructuration de l'activité automobile et de remontée des marges, où nous visons 7% des bits normés dans l'activité auto, hein, qui passe par une stratégie de positionnement de multispécialistes sur des produits à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on ne va pas se développer sur des produits de commodité, on va les remplacer progressivement par des produits à plus forte valeur ajoutée. C'est pour ça que vous voyez de temps en temps, certains trimestres, des niveaux d'activité qui sont inférieurs au marché, qui correspondent aux périodes où on va rendre des pièces, où on va se repositionner sur d'autres pièces, ou des phénomènes de développement de nouvelles pièces qui mettent un peu de temps, qui sont un peu en décalage. Et donc, notre capacité à retrouver 7% de bits, il va être fait à la fois sur le type de pièces et le volume de produits à bonne valeur ajoutée, et ensuite sur le niveau d'exécution. Et c'est là où nous avons déroulé notre plan industriel pour la partie fixation vissée, et notamment en France, avec le renouvellement et la modernisation des sites. Celui-là est maintenant achevé, il nous reste maintenant à travailler sur la qualité des produits et sur l'exécution, et ça c'est le plan du DC Excellence Achievement Program.
Ok, merci.
Nous avons une autre question de Madame Chloé Lemaire de MainFirst. Madame, c'est à vous.
Oui, bonsoir à tous. J'avais un certain nombre de questions. Le premier, c'était sur la partie aérospace. Si mes calculs sont bons, sur le troisième trimestre, dans les fasteneurs US, il y a eu une décélération un peu plus importante que par rapport au H1. Je voulais savoir si c'était un impact de phasing chez Boeing ou s'il y avait aussi d'autres impacts sous cette baisse. Deuxième question sur aérospace. Je suis un peu étonnée en fait de la baisse au niveau des composants de structure au T3. Je voulais savoir si vous pouviez donner un peu de détails au niveau des plateformes qui étaient impactées. Ensuite sur automotive. Au premier semestre, vous nous indiquiez un volume du S2 qui serait aidé par donc les lancements des nouveaux produits, mais sans nécessairement une augmentation de la marge à cause des coûts de lancement. Donc, si vous pouviez nous donner un petit update sur les coûts que vous voyez déjà probablement arriver, est-ce que c'est en ligne avec vos attentes ou est-ce que ça a dévié à la hausse ou à la baisse? Et dernière question sur l'intégration de Remlé, si vous pouvez nous donner une petite indication de marge que vous comptez atteindre sur Remlé au deuxième semestre. Voilà. Merci.
Bon, bah, c'est assez complexe, ça va nous permettre de refaire un tour de piste. Donc sur l'aéro, effectivement, sur le T3, ceux qui n'ont pas fait les calculs, c'est moins 10,5. Donc les fasteneurs US hein, qui sont en baisse, et ça c'est purement l'effet Boeing, et bien que chez Boeing, nous connaissions un niveau de prise de commande supérieur à la moyenne des 6 premiers mois de l'exercice. Donc c'est par rapport à l'an dernier où on était encore en forte activité du côté de chez Boeing. Par ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que toute l'activité aéronautique générale sur les hélicoptères, sur les business jets et sur le militaire ne se porte pas très très bien aux États-Unis. Mais ça, c'est principalement un effet Boeing. Ensuite, je n'ai pas très bien compris votre position concernant les composants, parce que sur les composants, on est à plus 9% sur le T3. Donc on n'est pas en baisse, hein, puisque sur le cumul, on est à plus 8,6, donc on est plutôt en fort volume d'activité sur la partie composant de notre structure. Donc j'avoue que j'ai pas très bien compris à quoi vous faites référence.
Je dois avoir des mauvais chiffres alors.
Voilà, donc c'est plus 8,9 et tout monte. Hein. Quand essayer de cerner les surcoûts d'industrialisation qui nous affectent concernant la partie composant, encore une fois, le message c'est de dire on n'a pas aujourd'hui le plein bénéfice de l'effet volume, des 286 millions de volume que nous connaissons, pardon. 269 millions de volume que nous connaissons sur la partie structurelle qui se compare aux 250 millions de l'exercice précédent. Donc les plus 19 millions de volume supplémentaires n'apportent pas de marge. C'est ça que je veux dire. Donc et que ce volume-là, aujourd'hui, il pèse puisqu'on a privilégié le service client. Ce que Antoine a mentionné tout à l'heure, les problèmes d'Alcoa, moi je ne veux pas les connaître. Donc on préfère la continuité des programmes à la marge. Et je pense que dans la durée, on a raison de ce choix-là. Quant à LMR, les indications de niveau de rentabilité sont des EBIT à deux chiffres, et on confirme cette indication-là.
D'accord, merci. Très clair.
Nous avons une autre question de Monsieur Jean-François Grandjean de Odo Security. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir. J'aurais trois questions. Tout d'abord, vous évoquez le niveau de book-to-bill pour la partie automobile. Est-ce qu'on pourrait avoir le même type d'information à ce jour actualisé pour la partie aéronautique? Deuxième question, donc j'ai bien compris les tendances et perspectives pour l'aéronautique. Au terme du premier semestre, vous aviez évoqué dans la press release des résultats de la division qui devraient progresser en valeur absolue au second semestre. Est-ce que c'est toujours d'actualité compte tenu des éléments que vous avez évoqués concernant les coûts? Et puis, dernière question, est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur des niveaux de chipsets pour la 320, 320 Neo à 350 et que vont représenter en fait ces différents programmes dans l'activité en 2016 et éventuellement 2017 en pourcentage? Merci beaucoup.
Excusez-moi, j'arrive tout de suite.
Pas de problème.
Parce que j'ai pas bien saisi votre dernière question.
La dernière question, c'était est-ce qu'on peut avoir les chipsets, les ordres de grandeur pour les principaux programmes à 350, à 320 et 320 Neo. Et d'une part, et d'autre part, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui un ordre de grandeur sur la proportion, la pondération de ces différents programmes dans votre activité?
D'accord. Alors. Tout d'abord, le book-to-bill aéro, on ne le donne plus parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de programmes, soit de VMI, soit de min-max, et donc le book-to-bill, il ne veut plus rien dire. Mais globalement, ce qu'on a aujourd'hui pris en commande, et puis ce qu'on constate en fait en appel de livraison, on est légèrement supérieur à 1 ou pas loin de 1. La deuxième chose, c'est la progression des résultats en valeur absolue sur la partie aéro, sur le S2. Donc là, c'est une comparaison par rapport à l'an dernier, que vous souhaitez. Hein.
Tout à fait, absolument.
Voilà, on confirme qu'on sera dans les mêmes eaux.
Ok.
En valeur. Hein. Et le chipset par programme, aujourd'hui, je suis toujours pas capable de le donner. On a toujours des prix qui peuvent être des prix de lancement, et on n'a toujours pas de nomenclature pour la partie. Fixation. Maintenant, dans les grandes notions que nous avons déjà annoncées à certains d'entre vous, c'est que on estime que notre part sur le 350, globalement, quand on additionne à peu près tout, serait de l'ordre d'un million d'euros.
D'accord.
Et après, sur le LIP, là, je suis bien incapable de vous dire quelle est la valeur, mais c'est quand même significatif également. Mais il va remplacer la partie CFM. Hein. Mmh. Et puis après, il n'y a pas que le CFM qui baisse, hein. Il y a le V2500, G7000, etc. Donc il y a un certain nombre de programmes qui vont baisser, mais dans les années futures, après 2018. Donc les calculs et les ordres de grandeur de programme par programme, c'est assez compliqué à faire chez nous, tant la diversité des produits, le changement aussi des produits en cours de vie du programme qui peuvent arriver, peuvent varier. Donc sachez simplement que le 350, c'est un programme très significatif pour le groupe LICI.
Ok, merci beaucoup.
Nous avons une autre question de M. Christophe Ménard de Kepler Chevreux. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonsoir. J'avais deux questions. La première était sur 2017, ou en tout cas le relais de croissance des US l'an prochain. C'est un relais de croissance qui est anciennement Boeing, ou est-ce que vous voyez des signes timides de reprise sur BizJet ou Helico? Je tente la question, mais j'ai peur du moins, je pense que la réponse est négative. Et sur précisément Boeing, est-ce que c'est les Quels sont les moteurs en fait de la reprise sur Boeing? C'est suite à la gestion des, ou à l'optimisation des inventaires, il y a une reprise, du moins un restocking qui est réalisé. Du moins, est-ce que c'est l'esprit que vous avez en tête pour l'an prochain? Et la deuxième question, c'était sur le coût LEAP. Est-ce que votre coût LEAP a augmenté par rapport au H1? Est-ce que vous donnez des indications ou est-ce que vous êtes en ligne avec ce que vous aviez déjà au H1 sur le LEAP?
Alors, sur 2017, donc effectivement, on peut attendre raisonnablement un redémarrage de Boeing, qui est un effet de correction d'effet de stock. Donc il y a eu plusieurs éléments chez Boeing où ils sont beaucoup occupés de leur chaîne logistique, où en fait la suractivité qu'on a pu connaître par le passé va connaître une fin, puisqu'il n'y a qu'un effet stock, puisqu'on travaille bien entendu sur un contrat qui maintient les parts de marché. Donc cet effet stock, il est lié à la réduction des tailles de cambon, puisqu'on atteint maintenant des taux de service de 100%. Il est lié également au regroupement physique des stocks, alors qu'auparavant ils étaient séparés. Et ensuite, on a des effets de contraintes logistiques ou d'abaissement de certains paramètres qui en fait ont généré une baisse d'activité sur plus de 12 mois. Donc c'était quand même conséquent. Alors il y aura forcément une fin à ce phénomène-là. La deuxième chose, c'est que c'est Boeing essentiellement qui va être le moteur de la reprise. Et dans le même temps, on a un plan de prise de part de marché chez les distributeurs, il ne faut pas oublier, qui est un segment important, avec l'ouverture de nouveaux comptes, je citerai notamment Spirit, donc qui est le troisième consommateur mondial de fixation, chez qui on retrouve une position un peu plus digne de notre rang. Donc ces trois éléments-là confondus devraient à eux seuls générer un surcroît d'activité sur la principale usine de Torrance. On n'attend pas de redressement sur les autres secteurs, que ce soit les hélicoptères, que ce soit les business jets. Donc Christophe, vous avez posé la question et cité la réponse en même temps, et je la confirme. Sur les coûts LEAP, c'est une question qui demande de la précision, sur laquelle aujourd'hui je suis un peu en difficulté pour pouvoir vous répondre, mais tout ça pour vous dire que, vous citez un exemple, dans la seule usine de Marmande, on a 50 personnes à embaucher sur le T4 pour pouvoir faire face aux hausses de cadence attendues sur le LEAP pour le T1 et le T2 de 2017. Et il est évident que je ne vais pas freiner le recrutement de ces personnels uniquement pour faire beau sous compte de résultats et mettre à mal le démarrage des volumes supplémentaires pour 2017. Donc on va procéder à ces recrutements. Et ça donne lieu à des coûts importants. Et vous comprenez que quand on est en permanence en train de préparer la croissance future, on a une croissance des coûts qui va avec. Dans les volumes supplémentaires, j'ai essayé de peser les mots au niveau du rapport que vous avez pu lire en disant que c'était dans les mêmes proportions.
Et une question subsidiaire sur le pic des coûts LEAP pour vous, c'est 2018 ou c'est 2017?
Non, on est en avance de phase, donc ça doit être 2017.
D'accord, merci beaucoup.
Nous avons une autre question
oui.
De Monsieur Antoine Boivin-Champeau de Natixis. Monsieur, c'est à vous.
Oui, deux petites questions supplémentaires rapidement. La première, c'est je crois qu'Airbus a demandé à Safran d'augmenter ses cadences suite au problème du GTF. Lesquelles cadences ont un peu augmenté sur le moteur, mais pas tant que ça. Est-ce que vous-même, vous avez été un facteur limitant dans l'augmentation de ces cadences? Et la deuxième question, c'est sur le LEAP 1B, qui devrait être entré en service vers la mi-2017. Pourriez-vous nous indiquer où vous en êtes sur l'ingénierie de vos pièces sur le moteur? Est-ce qu'elles sont aujourd'hui complètement figées? Où en est la phase d'industrialisation sur ce moteur, sur cette version? Merci.
Bon, Antoine, sur ces deux questions qui sont un tout petit peu touchy, je répondrai que nous sommes conformes. conforme dans les deux cas, à la fois en termes des hausses des cadences. Aujourd'hui, on n'est pas un facteur limitant, même si on met beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources pour pouvoir sortir des montants comme nous avons promis, et on se limite au montant promis. Et ensuite, sur le LIP 1B, on est conforme au programme, et plus de détails, vous devez aller les demander du côté de chez SNECMA.
Merci.
Plus d'autres questions?
Écoutez, non, pas d'autres questions.
Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vos questions à la fois nombreuses et intéressantes. Donc, bon rapport, bon travail, et nous nous retrouverons maintenant, eh bien ça va être en février pour les résultats annuels. Merci à tous.
Mesdames et messieurs, la conférence est maintenant terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez à présent vous déconnecter.